Découvrez l'auteur derrière les mots dans Paroles d'écrivain.
Oui, et bien bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gérard Muller pour son livre « L'épouse du bourreau » publié aux éditions Le Lys Bleu. Bonjour, Gérard Muller.
Bonjour.
Alors, je voudrais d'abord, comme première question, vous demander quelle est la genèse de ce livre. Pourquoi avoir écrit un livre qui se déroule, bon, on va le voir au cours de notre conversation, en Syrie, et par l'intermédiaire, nous verrons également une façon de d'écrire qui est particulière, qui est très originale et qui est très réussie d'ailleurs.
Tout à fait. Alors, si vous voulez, la situation de l'épouse de Bachar al-Assad m'a toujours interpellé, parce que c'est une femme qui a été élevée à Londres, qui a fait des études universitaires, donc une culture occidentale. Et je me suis toujours demandé comment elle peut supporter les horreurs de son mari. Et au départ, je voulais faire un roman classique, c'est-à-dire m'immiscer dans le palais de Bagdad, raconter leurs relations, etc. Et puis, je n'y arrivais pas, parce que je ne suis pas à Damas. Pardon, c'est Damas.
Damas,
c'est pas,
Damas.
C'est pas Bagdad, je suis
Damas.
Désolé. Oui.
Damas.
Je suis pas allé, donc j'avais du mal à imaginer la situation. Je tournais en rond et d'un seul coup, l'idée m'est venue de faire une partie épistolaire. C'est-à-dire, j'ai imaginé que.
Forme de lettre. Voilà.
Que cette femme que j'appelle Alma.
Alma.
OK. Va échanger des lettres avec sa sœur, qui se trouve à Londres.
À Londres.
D'ailleurs, qui existe, hein, sa sœur, d'ailleurs. Hein. J'ai un peu changé les noms, mais ils sont très proches. Et sa sœur va lui envoyer des lettres en disant « Mais comment tu peux supporter ton mari ?» Alors au départ, Alma va résister en disant « Mais non, il fait bien son travail, tu sais, c'est des terroristes, c'est des djihadistes, il faut les éliminer, donc ceci explique cela. » Et petit à petit, sa sœur va la convaincre de rentrer en résistance. Déjà de vis-à-vis de son mari, et ensuite même de rentrer un peu plus en résistance. Bon, je ne vais pas raconter les livres, hein. Jusqu'à trahir son mari. Le problème, c'est que son mari va s'en apercevoir et va la mettre un petit peu à l'écart. Entre-temps, elle attrape un cancer, cette pauvre femme, Alma, toujours. Ce qui est vrai, d'ailleurs, c'est qu'elle a vraiment eu un cancer du sein. Hein. Et comme ils n'arrivent pas à la soigner à Damas, elle est envoyée à Moscou.
À Moscou.
Où là, Poutine va l'accueillir et va s'en servir comme monnaie d'échange. Hein. Et donc là commence la partie narrative du livre. Donc là, toute la partie narrative du livre se passe à Moscou. Met en jeu toujours la sœur qui est venue à Moscou aider sa sœur, Alma, et Poutine qui va tirer les marrons du feu. Donc sa sœur va être guérie là-bas et va revenir à Damas, en Syrie, avec une mission que lui a donnée Poutine, mais alors après je ne vais pas raconter la suite, mais cette mission va s'avouer un petit peu biaisée, et tout ça va finir dans une fin dramatique que je ne vais pas raconter.
Bien sûr.
Voilà.
Donc, allez-y.
Donc, moitié épistolaire, moitié narratif, c'est pour ça que le roman est assez original.
Voilà, et posez la question, est-ce que vous le voyez comme un roman-roman, la fiction ou réalité?
Alors, il y a une partie de réalité, puisque les personnages existent. Bon, j'ai un peu changé les noms.
Voilà, les noms, mais...
Mais c'est quand même basé sur les faits réels, ce qui se passe à Syrie. Puis en plus, il y a l'intervention de Poutine.
De Poutine, oui, qui l'a, bien sûr.
Alors, j'avais longtemps hésité à le publier, enfin longtemps, quelques mois hésité à le publier, puis il est paru Le Match du Kremlin,
oui,
que j'ai adoré.
Oui, Pauline, oui.
Je me suis dit, ça se rapproche un tout petit peu du Match du Kremlin, donc allez, je le publie. Je le publie et j'ai trouvé un éditeur pour le faire. C'était pas évident de trouver un éditeur,
d'ailleurs. Oui, c'est la question que je voulais poser aussi au niveau de l'édition, oui. C'est... Est-ce qu'avant ce livre, vous avez écrit d'autres livres ou...
Ah oui, bah, j'en
oui,
sais pas.
Oui. C'est pas le premier livre.
J'ai écrit 70 livres. Hein.
Oui, et dans la même veine, ce sont des romans, romans...
La moitié, ce sont des romans, et la moitié, ce sont des polars.
Des polars.
Je fais aussi du polar.
Également.
Alors, le polar, il est régional.
Oui. Hein.
Souvent, je fais des polars gastronomiques, par exemple, ou des polars terroirs, comme j'ai dit. Ça se passe toujours en Occitanie. Par contre, mes romans se passent à l'étranger, toujours. Hein, parce que j'ai beaucoup voyagé pour mon travail. Et donc, généralement, un voyage donne un roman. Donc, comme ça, je me suis baladé en Australie. J'ai fait un roman sur l'Australie, sur le Chili, sur le Costa Rica, sur la Namibie, etc. Sur le Japon, sur Dubaï. Hein. Et les romans ont toujours un thème particulier. Et mais polar, c'est plus un métier, c'est plus une situation, c'est plus la gastronomie, par exemple. Mmh. Je m'amuse plus. Non.
Alors, donc, ce roman se situe entre, surtout au départ, ce sont les échanges de lettres entre, oui. entre donc, Alma, qui, elle, se, situe, se trouve à Damas, bien sûr, et Anna, qui se trouve à Londres. Oui. C'est la sœur de son
sa sœur. Oui, oui.
Elle est à Londres, elle est partie de... Elle a quitté la Syrie, elle. Elle a pu quitter
la Syrie. Elle n'est jamais allée en Syrie. Enfin, elle vit à Londres.
Elle vit à Londres.
Et elle s'oppose un petit peu à sa sœur dans la réalité. Voilà. Hein.
Okay. Et alors, dans ses lettres, elle essaie de convaincre sa sœur que... Parce qu'au départ, elle est assez réticente, sa sœur.
Elle ne
comprend pas. Voilà, c'est ça.
Elle dit, écoute, on est attaqué par des djihadistes, il faut se défendre. Etc.
Elle défend son mari, quoi.
Elle défend complètement son
voilà,
mari.
Voilà, voilà, okay. Dans un premier temps.
Alors après, j'ai imaginé que sa sœur aussi avait une relation avec le MI5. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une partie... espionnage qui a été inventé. Hein.
Oui,
je ne sais pas si dans la réalité, je
ne
pense pas que ce soit vrai. Hein. Mais il y a aussi une partie espionnage, intervention du MI5 dans le livre. Hein. Mm. Puisque Alma va devenir plus ou moins espionne pour les Anglais.
C'est exact. Et alors donc, elle arrive difficilement quand même à la convaincre dans un premier temps quand même.
Ah ben elle va résister.
Elle va résister.
C'est tout l'échange épistolaire où on la voit petit à petit, au début résister.
Oui.
Puis il y a une première fissure, une deuxième fissure, et puis il arrive quelque chose de tragique que je ne vais pas raconter, qui touche une des meilleures amies d'Alma. Et là, elle va se rendre compte quand même de la cruauté du régime, et petit à petit, elle va basculer dans l'opposition à son mari. Ce qui est difficile parce qu'en plus, elle a des enfants.
Voilà, j'allais vous le dire. Et elle a trois enfants.
Elle a trois enfants,
Alma.
Que son mari vénère et voilà. Dont l'aîné est appelé à remplacer Bachar lorsque celui-ci disparaîtra ou quittera le pouvoir.
Et les enfants ont des positions politiques différentes. Quand
même. Oui, il y en a un, c'est un petit peu l'intérêt, enfin, l'aspect psychologique du roman, c'est que le fils aîné qui s'appelle Hafiz, c'est la copie conforme de son père. Voilà. Et puis il y a un dénommé Zine qui a une sensibilité qui est beaucoup plus sensible et qui est beaucoup plus proche de sa mère et qui va effectivement aussi prendre le parti de sa mère.
Voilà. Et donc les enfants sont au courant de des lettres échangées entre...
Pas au départ. Hein.
Au départ non.
Mais Zine va être au courant à peu près la moitié du livre. Sa mère va le mettre au courant pour lui montrer la réalité en face de ce qui se passe vraiment dans son pays. Hein. Et petit à petit, il va aussi aider sa mère.
Il va aider sa mère, oui. Mmh. Et le mari, n'en parlons pas, il n'est pas au courant, lui, bien sûr.
Il n'est pas au courant. C'est pour ça que j'ai utilisé des lettres, parce que maintenant, on pourrait imaginer que ce soit des mails.
Oui.
Mais j'ai trouvé que le procédé des lettres était plus original et permettait d'envoyer des missives cachées via des canaux un peu secrets. Hein. Voilà.
Et alors là, vous faites intervenir là, un peu, bon, on parle de fiction, mais également de réalité, parce que vous faites intervenir le rôle de Daesh dans ce roman également, bien sûr. Vous avez parlé également de Poutine, bien sûr, puisque lui aussi intervient à un autre niveau. Des rebelles également, et de l'attitude de la Syrie vis-à-vis de l'Occident aussi. Donc vous faites
aussi une partie géopolitique qui est basée sur des faits réels.
Oui. Voilà, des faits réels, cela par contre.
Oui, tout à fait. Il y a la fameuse ligne rouge aussi, décrétée par Obama. Oui. Donc ça m'a permis de faire un roman un peu psychologique, un petit peu sur une base géopolitique.
Voilà.
Et ce qui m'a intéressé, c'est la situation de cette femme. Et c'est de voir son évolution qui, petit à petit, va basculer de l'autre côté. Et va se mettre en opposition avec son mari. Et c'est toute cette progression psychologique qui m'a intéressé d'écrire. À travers l'échange de lettres. C'est pour ça que c'est un peu original comme présentation.
Ah non, mais c'est très réussi comme présentation.
Je vous remercie.
Oui. Et ensuite, le rôle de Poutine, parce qu'il arrive donc cet incident, ce problème de santé à Alma. Donc elle se fait soigner à Moscou. Et c'est là que...
Poutine va l'utiliser, va d'abord la faire guérir, hein. Par les meilleurs médecins de Moscou,
voilà.
Et va l'utiliser pour qu'elle revienne à Damas, et il va s'en servir vis-à-vis de Bachar, parce qu'il se méfie quand même de Bachar, Poutine. Hein. Dans mon roman et dans la réalité aussi.
Dans la réalité aussi.
Donc il va s'en servir d'une certaine façon, que je ne vais pas décrire, parce que je vais décrire le roman, mais il va s'en servir, mais la pauvre, elle va tomber de désillusion en désillusion, jusqu'à une fin tragique.
Et alors, vous en profitez pour décrire un peu les personnages qui sont réels, bien sûr. Le bourreau, on sait très bien de qui il s'agit, bien sûr.
Que j'appelle Bastard dans le roman.
Oui, voilà. Bastard. Donc, vous en profitez pour faire une description donc, de ces personnages qui sont évidemment des êtres réels, bon, parce qu'on parle des personnages inventés. Donc il y a celui-là, celui de le bourreau qui est Bachar. Poutine également, vous décrivez un peu.
Oui, alors,
vous l'avez inventé, je suppose que là.
Poutine, on le connaît bien à travers la télévision.
Je
ne connais pas personnellement.
Non, pas personnellement,
rassurez-vous. Mais en plus, j'ai visité le Kremlin, donc j'ai eu la chance d'aller à Moscou, de visiter le Kremlin. Donc je fais une visite de 2 heures du Kremlin, donc je connais les lieux. Parce que. Pour bien écrire de quelque chose, il faut quand même connaître les lieux.
Les lieux, oui.
Donc moi, j'écris généralement sur des lieux que je connais. Hein. C'est pour ça qu'au début, je voulais parler de Damas, mais j'y suis jamais allé.
Oui.
Et donc j'étais coincé. C'est pour ça que j'ai inventé cette forme épistolaire. Voilà.
Et alors, à Londres, par contre, la sœur accueille aussi des réfugiés syriens dans sa famille.
Oui, elle fait partie de la diaspora syrienne, donc elle accueille des réfugiés syriens, elle s'en occupe. Et d'ailleurs, il y a un passage aussi intéressant avec une famille qu'elle a accueillie.
Voilà, une famille
qu'elle a accueillie. Je ne vais pas le décrire, mais qui va aussi la sensibiliser, et sensibiliser aussi le lecteur à cette tragédie qu'est la Syrie, parce que c'est quand même, il y a quand même plus de 300 000 morts, ou même plus de 300 000 morts en Syrie. Et puis il y a 5 millions de déplacés, des gens qui ont fui la Syrie. C'est vraiment, c'est scandaleux. Hein. Tout ça parce que c'est protégé par Poutine et par l'Iran. Hein. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Sans compter les massacres perpétués par Bachar, et sans compter, par exemple, les chrétiens. La situation des Yazidis, tout ceci est dramatique, c'est complètement dramatique, mais avec le poids des ans, on a tendance un petit peu à oublier, donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu en parler.
Et par rapport à Anna, qui est à Londres, l'attitude de Bachar, puisqu'on dit, on te dit pas Bachar, mais enfin, on sait bien que c'est lui. Quelle est son attitude vis-à-vis d'elle? Il en parle sans parler des lettres, je veux dire. Est-ce qu'il a des relations avec elle
Avec
la sœur.
Non, pour lui, c'est une ennemie. C'est une ennemie parce qu'elle fait partie de la diaspora. Et elle veut le faire condamner par la Cour internationale de justice. Hein. Donc elle a entamé une procédure, c'est dans le bouquin, ça j'ai inventé, hein, contre Bachar. Donc Bachar, lui, il n'a qu'une seule envie, c'est la supprimer. Donc c'est une ennemie pour elle. Et lorsqu'il découvre que sa femme est en relation avec
Anna,
il est furieux, il devient furieux d'ailleurs, il va même jusqu'à battre sa femme, jusqu'à la battre sérieusement, quoi, l'abîmer même. Et elle attrape un cancer aussi, je pense.
Voilà, c'est ça aussi, ça.
C'est aussi, je pense que c'est un cancer psychosomatique. Elle est quand même partagée entre son mari, sa sœur, l'amour de son pays et puis ce qui se passe dans son pays. Donc tout ça, je pense qu'elle attrape. Ce cancer, il n'est pas là par hasard.
Là, ça relève de la fiction. Là.
Elle a vraiment attrapé un cancer. Dans mon roman, je m'en sers.
Dans votre roman,
comme conséquence psychosomatique des pressions qu'elle endure.
Qu'en réalité, là,
elle a eu un cancer. Elle a eu un cancer. Qui a été soigné. À Moscou, d'ailleurs.
À Moscou.
Oui, tout à fait.
Je crois que nous allons passer à notre pause musicale. Vous avez choisi, je pense, comme morceau.
J'ai choisi un morceau syrien de la résistance syrienne qui a été mis en scène par l'UNICEF. C'est des enfants qui chantent.
Très bien.
Voilà, donc on va écouter ça.
Bon, on va l'écouter. Nous écoutons.
جرحك بيه בסוד לעלי בדיעול בססות עזרית אם כן נחנו לעצור בסרחית נמני ללאלב ידנה נמחיק לחוף וקונה תריר ביעל הסוד בדיעול בלגני כלשי מעול חדה יוזמע חדה שוב תפוי
Oui, et bien nous revenons à Gérard Müller et à l'épouse du bourreau. Et Gérard Müller va nous lire un extrait de son livre. Nous vous écoutons.
Alors, c'est une lettre qui part de Londres. Et donc, c'est Anna qui écrit à sa sœur Alma. Donc, ma chère Alma, la situation ne fait que s'aggraver. Nous en sommes maintenant à presque 5000 morts et je ne sais pas combien de blessés. En plus, une partie de la population commence à quitter le pays ou à se réfugier dans des zones tenues par les soi-disant rebelles. Si cela continue, et cela n'a aucune raison de s'arrêter, Bastar va dépasser son père et les 10 000 trépassés que celui-ci a laissés à Amma. L'élève va surclasser le maître. Qui l'eût cru ? Qui eût cru que le gentil docteur puisse se transformer en un des plus abominables tyrans ? Tu n'as pas tort. Je crois de moins en moins à une intervention occidentale. Et j'en suis attristé à un point que tu ne veux pas savoir. On parle maintenant d'une ligne rouge qui serait l'utilisation par le régime d'armes chimiques. Comme s'il pouvait y avoir plusieurs degrés dans l'atrocité de la mort. C'est vrai qu'un gaz mortel génère d'horribles souffrances et qu'il touche toute la population, civile en tête. Mais une bombe classique qui tombe sur un dispensaire peut faire autant de dégâts et de mutilations. Car, et je l'espère que je t'apprends rien, ton petit mari chéri attaque maintenant les hôpitaux de fortune que les ONG et ceux que vous appelez les rebelles tentent, tant bien que mal, d'édifier. Quelle lâcheté! Quelle ignominie! Et tout cela à l'encontre de la Convention de Genève sur les conflits. Non seulement celui qui partage ton lit agresse son propre peuple, mais il le fait au mépris de toute compassion et de toute conscience. Une honte! Comment un cerveau peut-il réaliser tout cela ? Sans remords, tout ceci mérite bien un procès pour crime contre l'humanité, et j'espère que de tout mon cœur qu'il sera accusé le plus rapidement possible. Ma chère sœur, quand vas-tu ouvrir tes yeux ? Quand vas-tu revenir sur la terre des personnes civilisées ? Quand vas-tu renouer avec les valeurs que nos parents nous ont enseignées ? Faut-il combien de morts supplémentaires pour que tu réalises l'horreur de la situation ? Quel est le prix de ta prise de conscience ? 50 000 cadavres ? 100 000 ? 500 000 ? Voilà.
Merci. Oui, et je pourrais en revenir donc au livre. Est-ce que vous parlez du peuple syrien, le peuple dans sa globalité ? Est-ce que, quelles sont ses réactions ? À part, il y a des rebelles, bien sûr. On sait très bien qu'il y en a certains qui s'opposent à Bachar el-Assad, mais est-ce que...
Oui, j'en parle un peu. Alors, voilà. il y a les rebelles, il y a les djihadistes, c'est compliqué. Hein.
Voilà, c'est pour ça.
Et puis, il y a les gens de la même... Parce que c'est un clan, les Bachar.
Oui, son père était à Fès, el-Assad.
Voilà, son père, il a fait que 10 000 morts. Il était un petit joueur, alors que lui, il en est à 300 000 maintenant, et 5 millions de déplacés qui ont fui son pays. Donc, comme disait De Gaulle, l'Orient, c'est compliqué, c'est complexe. C'est difficile d'y aller avec des idées simples, quoi. Hein. Donc, des tas de tendances, et puis derrière, il y a surtout Poutine qui joue, qui et puis il y a l'Iran qui essaye aussi de jouer sa carte, il y a les Mollahs qui essayent aussi, c'est un sac de nœuds, quoi, c'est un sac de nœuds, et on a laissé cette situation pourrir depuis 12 ans maintenant, donc, moi, ce que je regrette le plus, c'est le fait que Barack Obama n'a pas attaqué la Syrie après que Bachar ait franchi la fameuse ligne rouge des armes chimiques. Hein. Alors, il l'a pas fait il s'est rétracté au dernier moment pour préserver ses relations avec l'Iran. Parce que c'était à l'époque, on croyait encore être capable de négocier un traité anti-nucléaire avec l'Iran. Donc il a mis ça dans la balance, il a dit « j'attaque pas la Syrie, comme ça les Iraniens me seront gré et je vais pouvoir bien négocier un traité anti-nucléaire avec l'Iran, manque de peau, Trump est arrivé
il
a tout cassé, et donc le pays, maintenant, c'est dramatique. Et puis quand il y a eu le tremblement de terre là, en Turquie, ça a aussi touché la Syrie, là il y a eu beaucoup, beaucoup de morts. Hein. Et ça a été très compliqué d'apporter l'aide humanitaire. Donc c'est vraiment une situation dramatique, moi, qui passe un peu sous les radars, avec les guerres en Ukraine, la guerre de Gaza, etc.
Bien sûr. Mmh. Et c'est d'autant plus paradoxal aussi, c'est parce qu'il a, c'est, donc n'oublions pas qu'il a une formation d'ophtalmo.
Il est ophtalmo.
Et il a fait ses études en Occident.
Il a fait ses études à Damas, mais il a fini à Londres.
À Londres, voilà.
Il a eu un peu de mal, d'ailleurs, mais il a fini, il a eu son diplôme.
Oui.
Mais il n'était pas destiné au pouvoir. Celui qui était destiné au pouvoir, c'est son frère aîné.
Son frère aîné, oui. Hein,
qui est mort brutalement, je ne sais pas, dans quelles circonstances. Et donc, il a fallu trouver un successeur. Il s'est trouvé le successeur. Il n'était pas du tout prédestiné à ça. Hein. Au début, c'était un gentil garçon. Les Occidentaux l'aimaient beaucoup. Hein. Parce qu'il était élevé à l'occidental, il parlait bien, il était doux comme un agneau, quoi. Et petit à petit, l'agneau est devenu le loup. Mmh. Ouais. Il est un loup, vraiment, un bourreau, qui est le loup. Hein. Ouais. C'est curieux, hein, c'est curieux. Hein. Alors que rien ne le prédisposait au pouvoir et à cette situation de bourreau, quoi.
Et alors, pour en revenir, alors là, parce que nous avons très peu de temps, malheureusement, on a un peu parcouru le livre, mais il faut le lire, bien sûr, surtout, essentiellement, j'espère, pour nos auditeurs. Au niveau de l'édition, on avait parlé tout à l'heure de l'édition. Pour le premier livre donc, que vous aviez écrit, vous avez eu de la difficulté à le faire éditer, ou comment ça s'est passé ?
Alors, le tout premier livre que j'ai écrit, je les ai édités sur Internet, hein, parce qu'il y a des solutions maintenant sur Internet. Mm-hmm. Et puis, le troisième ou quatrième, j'ai fait un roman qui se passe dans les Pyrénées-Orientales, un roman terroir, d'un petit village qui s'appelle Jujol. Le roman s'appelle Les Loses de Jujol. Et ça a plu à un éditeur qui se trouve à Perpignan, qui s'appelle Les Presses Littéraires, qui m'a édité et qui édite encore mes polars en ce moment. Hein. D'accord. Mais pour celui-là, je voulais une diffusion nationale, donc je suis allé voir un éditeur parisien, le Lise Bleu, hein, qui a une diffusion plus importante que l'Occitanie. Voilà.
Et est-ce que vous avez, alors là, je suppose que pour ce livre, bien sûr, vous êtes documenté, puisque...
Oui, bien sûr.
Bien entendu. Donc, vous avez une partie documentation, une partie narration, comment ça s'est passé
Bon, d'abord, c'est une situation qu'on connaît bien à travers la télévision,
bien
etc. Comme je m'y intéressais beaucoup, je savais beaucoup de choses. Après, je suis allé effectivement...
Après, vous
documenté, mais Internet est fabuleux pour ça. On trouve tout sur Internet, Wikipédia en particulier, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, pour un romancier, il n'y a pas de souci de trouver des sources d'inspiration. Il suffit d'aller sur Internet. Mais encore une fois, on écrit bien que ce que l'on connaît. Mmh. C'est pour ça que j'ai imaginé un roman épistolaire pour tout le roman qui se passe à Damas.
Et vous avez des rituels d'écriture, c'est-à-dire vous écrivez le matin, le soir
J'écris souvent le matin, oui. Ouais. Des fois, je me lève à 4h du matin pour écrire. Mais j'ai la chance de pouvoir écrire à peu près quand je veux. Hein.
Oui.
J'ai une heure de libre, j'écris, donc j'ai pas de problème pour ça. Je ne suis pas comme un obsédé du rituel, comme certains écrivains.
pour la promotion aussi, vous faites des salons, des dédicaces,
oui,
comment
sûr,
ça se passe
hein. des salons littéraires, hein. essentiellement dans la région.
Oui. Hein.
Okay. Et je fais des dédicaces dans des librairies ou Cultura ou même dans des supermarchés, parce que ça marche pas mal les supermarchés. Hein. Mm-hmm. Et bon, j'essaie de faire une dizaine de salons littéraires par an.
Par an.
Et bon, c'est toujours un plaisir les salons, parce qu'on rencontre des lecteurs.
On rencontre du monde. Voilà,
Et puis la récompense, c'est quand il y a un lecteur qui revient et qui dit « Ah, j'ai adoré votre livre, qu'est-ce que vous avez de nouveau ?» Là, ça, c'est la récompense. Et puis, on rencontre les copains et auteurs aussi, puis certains éditeurs. Donc, c'est toujours un plaisir de faire des salons.
Et est-ce que vous avez actuellement un livre en préparation ou en cours?
Alors là, je viens de publier deux polars.
Oui.
Un polar qui se passe à Toulouse, pour les Toulousains, qui se passe à la Cité d'Espace. Mm-hmm. Il s'appelle Panique à la Cité d'Espace, c'est un polar. Hein. Et il est sorti il y a 15 jours, donc je vous encourage à l'acheter dans toutes les bonnes librairies du coin. Hein. Il est même en vente à la Cité d'Espace, au magasin de la Cité d'Espace. Et là, cette semaine ou la semaine prochaine, va sortir un polar qui se passe à Albi.
Ah.
Pas d'alibi pour Albi.
Ah ouais,
je fais de l'allitération. Pas d'alibi pour Albi. Dont le début se passe à Sainte-Cécile, la célèbre cathédrale, où je parle de la célèbre fresque du jugement dernier. Voilà, c'est le début du polar. Voilà. Donc ce sera pour les albigeois et ce sera publié, je pense, la semaine prochaine. Hein. Voilà.
Et pour le titre, bon, on devine bien sûr de qui il s'agit, l'épouse du bourreau, mais vous l'avez trouvé avant d'écrire le livre?
Non, j'ai trouvé après.
Non,
au départ, ça s'appelait Bachar ou Bastard, et puis le titre, il faut le trouver qu'après. Hein.
Faut le trouver qu'après.
Même si on a une idée avant, généralement, c'est une fois qu'on écrit le livre qu'on trouve le titre. Hein.
Très bien.
Voilà, mais je suis assez bon sur les titres. Hein.
Ah oui,
sur mes polars, je fais toujours des jeux de mots. Ben, j'ai la guerre du cassoulet, par exemple.
Oui.
J'ai ascenseur pour une huître.
Ah oui.
Voilà, j'ai concerto gris pour une truffe noire. Enfin,
c'est original. Très bien, mais je crois que nous arrivons malheureusement déjà au terme de notre émission. Alors je rappelle bien entendu le titre de votre livre, L'épouse du bourreau, de Gérard Muller, publié aux éditions Le Lys Bleu. Voilà, donc notre émission est terminée. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli.
Et je donne rendez-vous donc à nos auditeurs le mois prochain, le mercredi, la date, je ne la connais pas exactement, mais c'est le premier mercredi ou le deuxième mercredi de chaque mois, donc c'est en juin. Merci, à très bientôt, au revoir.